Chapitre 18 Les maraudeurs Partie 2 Il regarda de nouveau la carte. Ses amis avaient raison. Du haut de leurs 15 ans et sans aucune aide, ils venaient de fabriquer un objet magique d'une valeur inestimable. « Vous êtes sans doute les élèves les plus doués de cette école, » dit-il. Sirius éclata de rire. « Doué ?» dit James. « Le mot est faible. » « Et pour faire disparaître les lettres, maintenant ?» James et Sirius échangèrent un regard complice et pointèrent leurs baguettes sur le parchemin, précipitamment imité par Peter. « Mes faits accomplis !» scandèrent-ils. Aussitôt, l'encre s'estompa progressivement et le parchemin reprit son aspect vierge et usé. Rémus l'inspecta sous tous les angles et dut admettre que la carte était parfaitement dissimulée. « J'ai commencé par un charme de camouflage. » Mais je me suis rappelé que c'était détectable par les capteurs de dissimulation. Alors j'ai utilisé de l'encre invisible, mais un peu modifiée par mes soins. Avec un sourire malicieux, il pointa à nouveau sa baguette sur la carte du maraudeur. « Regardez, Aperecchio, » dit-il. Cette fois-ci, le plan de Poudlard n'apparut pas, mais l'écriture ronde et verte dessina une nouvelle phrase de présentation. « Messieurs Lunard, Cutvert, Patmol et Cornedru, lut à nouveau Rémus. Présente leur salutation au vénérable James Potter et le remercie de leur faire l'immense honneur, poursuivit Peter. De poser son regard divin sur notre humble parchemin, acheva Sirius dans un éclat de rire. James bomba le torse, extrêmement fier de lui. Vas-y, Rémus, essaie, dit-il en faisant un clin d'œil à Sirius. Rémus obtempéra un peu méfiant et pointa sa baguette sur le parchemin. « Aperecchio, » dit-il. L'encre se déplaça sur le parchemin pour former une nouvelle phrase que les autres lurent avec avidité. « Messieurs Lunard, Cutvert, Patmol et Cornedru. » Rémus s'interrompit et leva vers James un regard exaspéré. « Salut Rémus Lupin, le préfet le moins autoritaire que Poudlard ait jamais connu, » acheva à nouveau Sirius. Et il explosa de rire, rapidement imité par Peter et James. « D'accord, c'est de bonne guerre, » concéda Rémus, rapidement gagné par l'hilarité de ses camarades. « Mais en même temps, ça vous arrange bien. Quand je pense que les professeurs espéraient que tu arriverais à nous raisonner simplement parce que tu portes un joli petit insigne brillant, » soupira Sirius en essuyant des larmes de rire au coin de ses yeux. « De toute évidence, ils se sont lamentablement trompés, » approuva Rémus. « Votre mépris des règles est tout simplement… » incurable. Alors que James et Sirius s'apprêtaient à fanfaronner de nouveau, Flimant et Euphémia Potter les appelèrent à table et les quatre garçons, absolument affamés, se ruèrent dans l'escalier en se battant pour passer le premier. Ils rejoignirent les parents de James dans la salle à manger où six couverts étaient mis. Flimant Potter était en train de servir de généreux morceaux de volaille dans les assiettes tout en les ensevelissant sous des louches entières de sauce aux morilles. « Joyeux Noël, les garçons !» dit Euphémia en s'asseyant en bout de table à côté de Flimant. « Encore de la dinde farcie !» gémit James. « Tous les ans, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas varier un peu. Si tu as d'autres idées, sens-toi libre de nous éblouir les papilles l'année prochaine, mon chéri !» dit Flimant en découpant amoureusement la dinde qu'il avait dans son assiette. Tous les six mangèrent avec enthousiasme, oubliant pour quelques instants les terribles événements qui venaient d'avoir lieu. « Papa, qu'est-ce que c'est ce truc ridicule que tu as dans la bouche ?» demanda James lorsque lui et son père eurent englouti la totalité de leur assiette en un temps record. Flimant Potter sortit de sa bouche et regarda avec attention l'objet courbé et verni qu'il venait d'en sortir. « Ça s'appelle une pipe, » dit Flimant. « Ça me donne un petit style, non ? Les moldus mettent des herbes enflammées dedans, mais je trouve ça trop dangereux. » « Ça fait ringard, » grimaça James. « James !» s'indigna Euphémia. « On ne parle pas comme ça à son père, voyons. »« Laisse, ma chérie, » dit Flimant en continuant de mâchouiller sereinement sa pipe. « Il pensera à moi quand ses propres enfants le traiteront de ringard, lui aussi. »« Ça n'arrivera pas, » assura James. « Tu vas voir, je serai le père le plus cool de la terre. Tout le monde sera jaloux de mes enfants. »« Je demande à voir, » sourit Flimant. « Tu sais, » on est toujours le ringard de quelqu'un. Pas moi, insista James. J'ai l'élégance dans la peau. C'est comme ça, ne m'en voulez pas. Je ne peux rien y faire. Même si j'essayais d'être médiocre, je n'y arriverais pas. » Tout le monde éclata de rire. En regardant James lécher son assiette en riant, sans essuyer de remontrance, Sirius pensa furtivement que s'il avait osé montrer ne serait-ce qu'un dixième de cette impertinence chez lui, il aurait été envoyé au lit sans dîner, avec en prime un énième discours à propos du fait qu'il était le raté de la famille. Avant d'être un bon parent, il faut déjà trouver quelqu'un de bien pour l'être avec toi, rappela Euphémia en passant une main affectueuse dans les cheveux noirs et ébouriffés de Flimant. Je l'ai déjà trouvé, affirma James. Mais c'est mal engagé, tempéra Rémus. Non, c'est faux, répliqua James. Elle n'arrête pas de raconter partout que je suis un crétin arrogant, ce qui signifie que tu es un crétin arrogant, sourit Rémus. Mais non, enfin, tu n'y es pas du tout, ce qui signifie qu'elle est absolument dingue de moi. Flimante et Euphémia secouèrent la tête avec un accablement amusé. Bon, d'accord, je galère, admit James. Enfin, pour l'instant, rectifia-t-il aussitôt. Et si tu cessais de faire le pitre de temps en temps? Peut-être que ça l'agace si tu n'es jamais vraiment toi-même. J'y réfléchirai, maman, c'est promis. Bon, on passe au plat? James, enfin, c'était le plat! Après avoir englouti de délicieuses mousses au chocolat, James en dévora trois en quelques minutes, ils s'éternisèrent tous les six auprès de la cheminée, enroulés dans des couvertures moelleuses, et se laissèrent lentement envahir par la torpeur en buvant des tasses d'infusion de fleurs d'oranger. Puis, quand Rémus se mit à somnoler, James et Sirius lui proposèrent d'aller se coucher, ce que Rémus accepta volontiers. « James, tu habites au paradis, » marmonna Rémus en s'étendant à côté de Peter sur le grand matelas posé entre les deux lits jumeaux. James et Sirius s'allongèrent dans leurs lits respectifs, surplombant Rémus et Peter de toute la hauteur de leur sommier. Il y eut quelques minutes de silence, pendant lesquelles les respirations de James, de Sirius et de Rémus devinrent de plus en plus lentes. Mais rapidement, la voix de Peter interrompit leur cheminement vers le sommeil. « James, dis-moi, tu es vraiment sûr que ta maison est bien protégée ?»«
Silence, Peter !» soupira Sirius avec lassitude.
James poussa un grognement approbateur et ensommeillé. « Les mangemorts nous ont peut-être vus au pensionnat Wimbley, » gémit Peter. Peut-être qu'ils sont à notre recherche en ce moment même. » On entendit un bruissement de drap du côté du lit de James, signifiant qu'il se redressait sur son matelas.
« Patmol, est-ce que tu peux me rendre un petit service ?»
marmonna-t-il à mi-voix. « Avec plaisir, » dit aussitôt Sirius, qui savait déjà de quoi il retournait. « Comment ça ?»«
Merci mille fois, » dit James.
On entendit à nouveau un froissement de drap, mais du côté de Sirius, puis un sifflement rapide, un son mat et la voix étouffée de Peter.
« Hé !»
protesta-t-il en repoussant l'oreiller de plume que Sirius venait de lui écraser sur la figure.
« Ça t'apprendra à être un trouillard ?» rit Sirius.
Et emporté par son propre enthousiasme, il frappa à nouveau.
« Arrête un peu !» le supplia Rémus, à moitié endormi.
James, gagné à son tour par l'excitation, donna une petite tape sur la tête de Rémus.
Bande de rames, aïe !
Il venait de recevoir l'oreiller de Rémus sur l'épaule. Toi, tu ne perds rien pour attendre, dit James en se redressant dans la pénombre. Sirius et James étaient absolument ravis de la tournure que prenait la soirée. Tous deux saisirent leurs oreillers à pleine main et s'engagèrent dans la lutte. Les oreillers volèrent pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que celui de James se déchire et répande une marée de plumes à travers la chambre.
« Oh non !»
gémit Rémus en commençant à ramasser des poignées de plumes.
« On fera ça demain !»
décida James en éparpillant les plumes que Rémus avait dans la main. « Allez, au lit !»«
C'est ma place !»
remarqua Rémus en le voyant s'écrouler sur le matelas.
« On dort avec vous !» répliqua James sans bouger d'un pouce. « Sinon, vous nous manquerez trop !»«
Bien sûr !» sourit Rémus en se frayant un passage entre les épaules musclées de James et le ventre rond de Peter. Sirius s'allongea en travers des matelas qui se trouvaient sur le sol, la tête sur James et les pieds sur Peter.
« Cornedru, tu es sûr que tu es sous ta forme humaine ?» grogna Rémus. « Tu prends au moins autant de place qu'un cerf adulte. »«
Absolument sûr. Regarde, en voici la preuve, » rit James en lui pinçant le nez.
« Hé !»« Chut, Rémus !»
dit Sirius en pouffant de rire. « Tu ne vois pas que nous sommes en train de dormir ?» Rémus poussa un soupir, à la fois résigné et amusé. « Décidément, vous voulez ma mort, tous les deux. » Le silence se fit progressivement, parfois troublé par un petit gloussement, lorsque l'un d'entre eux se remémorait un des fous rires de la soirée, ou par un éternuement lorsqu'une plume venait leur chatouiller le nez. Et un par un, James, Peter, Rémus et Sirius s'endormirent. Le lendemain, lorsque Femia Potter vint les sortir du lit pour le petit déjeuner, elle les trouva tous les quatre enchevêtrés, couverts de plumes. James ronflait, la bouche grande ouverte, et Rémus était contorsionné sous Sirius, entre James et Peter, mais dormait malgré tout. « Oh, les garçons !» s'exclama Euphémia, à moitié attendrie et à moitié exaspérée, en allant ouvrir les volets. James répondit par un grognement, enfonça son visage dans ce qui lui restait d'oreiller et se rendormit profondément. Sirius, lui, était tout à fait réveillé, et ce depuis plusieurs heures. Il fixait le plafond. Ses angoisses lui avaient laissé un peu de répit pendant la soirée de la veille, mais elles étaient revenues à la charge au milieu de la nuit, et depuis l'aube, il s'évertuait, sans succès, à chasser de son esprit l'image de son petit frère encagoulé en train de piétiner les débris de tente au pensionnat Wembley. Après le passage de Femia Potter, il attendit un peu, puis, voyant que ses amis ne bougeaient pas d'un pouce, il se décida à descendre dans le salon. Quand il fut en bas des escaliers, il vit Euphémia et Flimonde Potter, tous les deux accoudés au comptoir de la cuisine. Devant eux, une radio énonçait les nouvelles du jour. Commençons notre bulletin matinal avec une bonne nouvelle. Le petit Nino, qui était porté disparu depuis l'attaque du pensionnat Wembley, a été retrouvé sain et sauf. Il a sonné hier soir à la porte de sa maison, légèrement chamboulé, mais en pleine santé. Nous ne savons pas comment il s'est retrouvé là, ni comment il s'est sauvé du pensionnat Wembley, ni où il était caché pendant ces quelques jours, car le petit Nino lui-même n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé. La supposition la plus probable est qu'il ait pu transplaner quelque part grâce à ses pouvoirs, extrêmement puissants pour un enfant de cet âge. « Je suis soulagée, » soupira Flimonde. « Cette attaque était bien assez horrible pour qu'on y ajoute le décès d'un enfant. Les parents doivent être fous de soulagement. En plus, ce sont des moldus, » renchérit Euphémia. Ils n'ont probablement pas compris grand-chose à ce qu'il s'est passé. Heureusement que leur enfant a réapparu. Tu as raison. Oh, à ce propos, je pensais à ces pauvres enfants qui étaient hébergés au pensionnat. Que vont-ils devenir maintenant qu'il est détruit ? Eh bien, j'imagine qu'ils vont réintégrer leur famille, avec tous les désagréments que cela implique. Les employés du pensionnat qui ont survécu vont faire de leur mieux pour continuer à les aider, mais je doute que ça soit aussi efficace. Ils vont peut-être essayer de reconstruire une structure semblable, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment la priorité du ministère. « C'est terrible, » dit gravement Flimonde. « Tous ces enfants en détresse et l'enquête qui piétine. Tu sais, j'étais au ministère hier matin pour proposer notre aide. Ils étaient tous en train de s'entre-déchirer. Ce pauvre Adam Clearing était là. Il était absolument dévasté. Je crois qu'il s'est échappé de Sainte-Mangouste malgré ses blessures. Maugret était furieux contre lui. » Et c'est vrai qu'il était méconnaissable, amaigri, ravagé par le chagrin. Ce pensionnat était sa maison. Et Eleanor l'a élevé comme une mère, soupira Euphémia. Pour la deuxième fois de sa vie, il a tout perdu. C'est tellement injuste. Malgré sa faiblesse, il était très remonté contre Croupton. Il l'accusait de ne pas tout mettre en œuvre pour retrouver les coupables. Mais il faut dire que la tâche n'est pas aisée. Aucun agresseur n'a été reconnu. Ils étaient tous encagoulés ou encapuchonnés. Aucun indice n'a été retrouvé sur le terrain, et les deux dragons ont disparu. Mais il a tout de même interrogé des suspects, n'est-ce pas ? Tous ceux qui avaient déjà envoyé des lettres de menace à Eleanor Wembley ou qui s'étaient prononcés pour la fermeture du pensionnat ? Oh oui, bien sûr. Il s'agissait principalement de Collinard, et ils ont tous donné la même version des faits. Eux aussi célébraient Noël chez les Selwyn quand ils ont été attaqués de la même manière par des individus encagoulés, qui ont fait apparaître la marque des ténèbres au-dessus de la colline. Ce qui expliquerait leurs blessures et le décès d'Arcadius Flint. « Quel culot !» s'indigna Euphémia. « Ce sont des mensonges, n'est-ce pas ?»« Sans doute. J'ai du mal à croire que les partisans de Voldemort aient choisi la colline d'Émeraude pour cible. Et puis, ces collinards auraient très bien pu endommager volontairement la maison des Selwyn pour faire croire à leur innocence. Ah, si seulement l'homme qui a été capturé n'avait pas perdu l'intégralité de sa mémoire. Il aurait peut-être pu nous donner quelques indices. Sans compter que les réserves de Veritaserum du ministère ont mystérieusement disparu. Et les deux dragons? On dit que Narcissa Malfoy et Daisy Goyle en possédaient deux semblables. Elles pourraient être impliquées, elles aussi. Elles ont été interrogées également et ont rapporté avoir perdu toute trace de leur dragon il y a plusieurs mois. Il paraît que l'interrogatoire de Narcissa a duré des heures, malgré les protestations de Lucius. Mais les inspecteurs n'ont rien pu en tirer. D'après eux, elle était véritablement en état de choc. Pas savoir pourquoi. Tous les deux échangèrent un regard accablé. Et au ministère, est-ce que Dumbledore était là? Oui, bien sûr, comme tout le Magène Mago. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Il a essayé de se faire entendre, mais personne ne s'écoutait. Et puis, ça a dégénéré quand Croupton a accusé Dumbledore d'être incompétent face à la montée des idées extrêmes au sein des élèves de Poudlard. Tu aurais vu Dumbledore? Son regard est devenu glacé. Il a rétorqué à Croupton que son fils y était sans doute pour quelque chose. Dumbledore a dit ça? À Croupton? Devant tout le Magène Mago? Alors qu'il ne supporte pas la moindre critique? Oui, et à partir de là, comme tu peux l'imaginer, le débat est devenu complètement stérile. Malheureusement, je ne crois pas que Croupton ait pris au sérieux la mise en garde de Dumbledore concernant son fils. Vraiment, ce spectacle était décourageant. De nouveau, ils retombèrent dans le silence. Devant eux, la radio continuait de grésiller. Et maintenant, parlons de l'annonce qui vient d'être faite. Après avoir été désavouée par la majorité du Magène Mago, Eugenia Jenkins a présenté sa démission. Pauvre Jenkins, commenta Euphémia. Elle était de bonne volonté, mais elle était si mal entourée. Tous ses conseillers ont totalement sous-estimé l'ampleur de la menace. Le Magène Mago vient d'élire son nouveau ministre. Il s'agit d'Harold Mitchum. Dans son premier discours, notre nouveau ministre a déclaré que la communauté magique entrait bel et bien en guerre et que l'heure était à la mobilisation. Il a annoncé les premières mesures qu'il allait mettre en place, proposer à tous les sorciers qui le souhaitent de s'engager aux côtés des Aurores, accélérer la formation de ces derniers. « Je n'arrive pas à y croire, » souffla Flimonde. « Et notre James qui va grandir dans ce monde. » Qu'allons-nous faire? Nous allons nous battre, dit Euphémia, résolue. Nous allons faire tout ce qui est possible pour protéger notre pays. Entre leurs silhouettes, Sirius pouvait voir leurs mains étroitement entrelacées sur le comptoir. Il se demanda s'il avait déjà vu ses propres parents se toucher, s'effleurer, ou même se parler sans s'insulter copieusement, mais il dut admettre qu'il n'en avait pas le moindre souvenir. Tu as raison, dit Flimonte. « Dès que possible, nous irons directement demander conseil à Dumbledore. Il saura ce qu'il faut faire. » Au bout d'un moment, Sirius tout sauta timidement pour signaler sa présence et les deux parents Potter se retournèrent d'un même mouvement. « Sirius, mon garçon !» s'exclama Flimonte sur un ton jovial qui avait perdu toute trace d'inquiétude. « As-tu bien dormi ?» Sirius regarda autour de lui, soudain désarçonné. Il venait d'être frappé par une évidence terrible. Ici, chez James, où il n'avait pourtant passé que quelques vacances éparses, il se sentait infiniment plus chez lui que dans sa propre maison, où il avait passé 11 années de sa vie. L'espace d'un instant, Sirius s'imagina retourner au 12 couards Grimoire et réalisa que ce serait tout bonnement impossible. Il ne pourrait plus jamais croiser le regard de ses parents, ni celui de son petit frère. Sa vie venait de prendre un tournant décisif. Tous ses repères venaient de s'écrouler, et même s'il avait toujours eu ses mêmes repères en horreur, l'incertitude de l'avenir le terrorisait. Où pourrait-il bien aller, une fois qu'il aurait coupé les ponts avec tous ceux qui partageaient son nom de famille? Bien sûr, les Potter l'accueilleraient à bras ouverts, mais s'il changeait d'avis, s'il se lassait de lui, s'il se disputait avec James, il n'avait aucune obligation de l'héberger après tout, et il serait sans argent, sans ressources. Flimonte et Euphémia semblèrent remarquer son désarroi, car ils se levèrent tous les deux d'un même mouvement. « Désolée, je… » La suite resta bloquée dans sa gorge. « Oh, Sirius !» dit Euphémia en s'approchant de lui. « Viens là !» dit-elle en le prenant doucement dans ses bras. Sirius fut bouleversé par cette marque d'affection. Il ne put retenir ses larmes plus longtemps. Malgré lui, ses yeux débordèrent, et deux traînées brûlantes lui sillonnèrent les joues. « Je ne veux pas rentrer chez moi, Mrs. Potter !» hoqueta Sirius en secouant la tête. « Je ne veux pas ! Je ne peux pas !» Euphémia s'écarta de lui et Flimonte lui posa une main affectueuse sur l'épaule.
Sirius, tu as tout notre soutien.
Et toute notre admiration, ajouta Euphémia.
Euphémia et Flimonte Potter avaient l'habitude touchante de compléter les phrases de l'autre.
Tu as grandi dans une famille autoritaire, aux valeurs plus que discutables. Et tu as eu le courage, la force d'esprit de remettre en question ce qu'on t'apprenait et de le contester pour défendre le bien, la paix et la tolérance.
Tu auras toujours ce mérite-là,
assura Flimonte.
Toujours,
approuva Euphémia. Tu peux en être fière.
Et regarde ce que tu es devenu, en dépit de toutes les brimades que tu as subies,
dit Flimonte en lui donnant une petite tape sur l'épaule.
Un jeune garçon formidable,
brillant,
généreux,
drôle
et fidèle,
conclut Euphémia.
Tes amis en ont parfaitement conscience. James en a parfaitement conscience.
Malgré ses airs fanfarons, il t'admire énormément, renchérit Flimonte.
Tout comme nous,
répéta Euphémia. Ils serrèrent à nouveau Sirius dans leurs bras et il se calma peu à peu.
Merci,
dit-il en reniflant et en s'essuyant les joues. Il se sentait tout drôle, à la fois très triste et très heureux.
C'est nous qui te remercions,
dit Flimonte.
James n'a jamais été aussi épanoui que depuis votre première rentrée à Poudlard,
dit Euphémia. Flimonte s'écarta légèrement et lui tendit un mouchoir.
Voilà pour toi,
dit-il en souriant. Sirius se moucha bruyamment et émit un bruit étrange entre le rire et les sanglots.
En tout cas, sache que notre proposition tient toujours,
dit Flimonte.
Tu es le bienvenu ici, Sirius,
aussi longtemps qu'il le faudra.
Tu es comme un fils pour nous, tu le sais déjà.
La pièce devint plus claire, sans que Sirius ne sache s'il s'agissait d'un rayon de soleil ou d'un effet de son imagination.
Alors si tu souhaites passer l'été ici, pour cette année et pour toutes celles à venir, notre porte te sera toujours ouverte.
Nous te réservons le petit lit dans la chambre de James.
Ou bien nous mettrons une tente dans le jardin.
Va pour la tente,
rit Sirius. Parce qu'entre nous, l'odeur des pieds de James...
Ah oui, bien sûr, une horreur,
rit Euphémia en levant les yeux au ciel.
Elle-même avait du mal à contenir son émotion.
On parle de moi ?
Demanda une voix pâteuse. James venait de sortir de la chambre, ses lunettes posées de travers sur son nez. Ses cheveux ébouriffés et ses vêtements étaient couverts de plumes qui tourbillonnaient vers le sol à chacun de ses pas.
« James, nous avons une bonne nouvelle à t'annoncer, » dit Euphémia tout sourire.
« Laquelle ?»«
Sirius passera l'été avec nous, » dit Flimonte.
James s'arrêta, soudain totalement réveillé.
« Sans blague ?»«
Sans blague, » confirma Sirius.
« Tu ne veux plus retourner au Square Grimoire ?»
Sirius secoua la tête.
« Plus jamais. »
James éclata d'un rire joyeux, sauta au cou de Sirius et le serra dans ses bras de toutes ses forces, surexcité.
« Prépare-toi à vivre le meilleur été de ta vie !» lui dit-il.
Puis il se tourna vers ses parents, toujours un bras autour du cou de Sirius.
« Et vous, le pire !»
Euphémia et Flimonte rirent de bon cœur, et James se pencha discrètement vers l'oreille de Sirius.
« Je te préviens, quand Lily acceptera enfin mes avances, je te mettrai dans la cave !»
lui glissa-t-il, hilar.
« On a le temps, alors !» répliqua Sirius.
Il sentait son cœur s'alléger de minute en minute et se demandait maintenant pourquoi il n'avait pas pris cette décision plus tôt.
« Que se passe-t-il ? » demanda la voix de Rémus qui venait d'apparaître.
Il était décoiffé lui aussi et tenait dans la main une taie d'oreiller remplie de plumes qu'il venait de ramasser sur le sol de la chambre.
« Sirius a accepté ! » claironna James.
Rémus, qui savait pertinemment de quoi il s'agissait, sourit largement et s'approcha pour congratuler Sirius.
« Je crois que c'est une bonne chose, » dit-il simplement.
Peter apparut à la suite de Rémus, remettant en place ses cheveux châtains ébouriffés. Tous les six se contemplèrent pendant plusieurs minutes, sans savoir que dire. Et finalement, ce fut Euphémia qui rompit le silence en désignant la fenêtre.
« Oh, regardez les garçons, il neige !»
Et en effet, de gros flocons blancs tourbillonnaient à l'extérieur et commençaient à saupoudrer le jardin. James, Sirius, Rémus et Peter échangèrent des regards émerveillés. Mais plus encore que les quatre garçons, ce fut Flimonte qui montra le plus d'enthousiasme. Il courut jusqu'au porte-manteau, revêtit une lourde veste écarlate et courut en chaussons vers la porte d'entrée. « Allez, les garçons !» leur lança-t-il en ouvrant la porte. « Tout le monde dehors ! Il est encore temps de fêter Noël !»